Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Nos enfants ont le droit au respect de leur vie privée, mais à l'heure du tout numérique, c'est loin d'être évident, aussi bien pour eux que pour leurs parents, parfois dépassés, mais aussi complices d'entraves à la vie privée de leurs petits, parfois tout petits. C'est ce que nous explique la défenseure des droits dans son rapport annuel sur les enfants rendu public. Aujourd'hui, nous en parlons avec Justine Atlan, directrice générale d'e-enfance, le 3018, association reconnue d'utilité publique pour son action pour la protection de l'enfance en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Difficile de nos jours de trouver un équilibre sain entre le respect de la vie privée et la protection de l'enfance.
Absolument, c'est difficile à plusieurs égards. D'abord, c'est difficile parce que souvent on oppose à la protection de l'enfance la liberté à la vie privée des adultes. Et puis même dans le cadre des enfants eux-mêmes, effectivement, ils ont droit eux aussi à une vie privée. Et donc il faut préserver un équilibre pour eux, à la fois de les protéger et de leur préserver un espace effectivement de privé et de liberté dans cet espace-là.
Alors je crois que de nos jours, 82% des enfants de 10 à 14 ans disent aller sur Internet seuls. C'est bien Internet pour s'informer, se divertir, se cultiver, mais c'est aussi un espace d'exposition extrêmement dangereux. On parle beaucoup de pédophilie, de cyberharcèlement, de sexisme, d'incitation au suicide ou encore de haine en ligne. Je donnais tout à l'heure, après l'association e-enfance, le 3018, c'est le numéro à disposition des jeunes pour toute question sur leur usage du numérique. Vous avez des retours peut-être de graves problèmes qui se passent de nos jours ?
Bah, malheureusement, oui, c'est vrai que sur le 30-18, on a un effet loupe assez négatif puisque ce sont en général des adolescents en panique, en souffrance, qui sont seuls, désemparés face à des problèmes qu'ils vivent sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ils sont victimes de violences permanentes, que ce soit des insultes, des injures, la diffusion de leurs images, justement, de leurs photos, de leurs vidéos sans consentement, des fausses rumeurs, des comptes usurpés, piratés. Ils se font escroquer aussi comme les adultes parce qu'ils ont bien repéré par la délinquance en ligne comme étant des jeunes forcément plus vulnérables et plus naïfs. Donc c'est vrai qu'il faut réaliser qu'Internet n'a pas du tout été conçu pour des enfants ou des adolescents. Donc ils errent dans un espace qui est un espace plutôt d'adultes et dans lequel en plus on n'a aucun moyen aujourd'hui, et c'est ça le plus important, de les identifier. Et tant qu'on n'a pas la capacité d'identifier les enfants, de les reconnaître en ligne, on ne peut pas leur offrir la protection auquel ils ont droit dans cet espace-là aussi.
Et on leur offre de plus en plus tôt, de nos jours, un smartphone ou un ordinateur ?
Absolument, ça c'est vrai que les usages rajeunissent considérablement depuis plusieurs années. Aujourd'hui, d'abord il y a les tablettes. Les tablettes, les parents ont souvent l'impression qu'ils n'offrent pas un téléphone, donc ça leur paraît moins important, moins grave. Or, une tablette, c'est quand même un smartphone géant sur lequel on peut faire absolument toute la même chose que sur un smartphone. Et puis ensuite, c'est vrai que de plus en plus tôt, avant même le collège maintenant, beaucoup de parents offrent à leurs enfants ce qu'ils pensent être un téléphone, mais qui est la plupart du temps un smartphone, donc qui est déjà un accès à Internet et aux réseaux sociaux, alors que théoriquement, ils ne sont pas censés y aller avant 13 ans.
Justine Atlan, directrice générale d'e-enfance, le 3018, est notre invitée ce soir. La défenseure des droits appelle les acteurs de la protection de l'enfance, dont vous faites partie, à travailler avec les établissements scolaires. Vous travaillez déjà avec les établissements scolaires, je suppose, parce que avant de se répercuter sur les réseaux sociaux, en ligne, le cyberharcèlement, je prends cet exemple-là, ça commence d'abord à l'école, évidemment.
Absolument. C'est vrai que, effectivement, on travaille avec l'Éducation nationale depuis début de l'enfance et on a agréé pour intervenir tous les jours dans les écoles, les collèges et les lycées pour opérer des actions de sensibilisation. Et c'est vrai qu'on voit bien que le harcèlement scolaire, qui n'a évidemment pas du tout attendu Internet pour exister, aujourd'hui il se prolonge dès le collège, dès que les jeunes sont massivement équipés sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'ils échappent complètement au regard des adultes, des parents, mais aussi souvent de l'école. Mais l'école subit les conséquences de ce cyberharcèlement parce que quand il a lieu entre des élèves d'un même établissement, nécessairement ça a des répercussions sur les élèves eux-mêmes, leur vie scolaire et leur bien-être à l'école et leurs apprentissages.
Et aujourd'hui, ce n'est pas très répandu de voir une boîte à smartphone à l'entrée de la classe. Chaque élève le met dedans, comme ça on est sûr qu'on ne prend pas en photo les uns et les autres. On ne s'envoie pas des messages pendant les cours. C'est là que ça se joue.
C'est vrai. Alors c'est vrai qu'en France, on a interdit les smartphones, en tout cas l'usage des téléphones et des smartphones au collège. Donc théoriquement, ils ne sont pas censés être utilisés.
Ouais, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux préférés des enfants. Je cite Snapchat pour se rendre compte que c'est pas toujours respecté, quoi.
Ben, c'est vrai qu'après, il y a une difficulté qui est effectivement, est-ce que l'école a le droit de saisir un téléphone, voilà, de l'enfant et de le prendre si, il sort? Il y a des conflits parfois de, voilà, un peu juridiques sur qui est propriétaire du téléphone et qui a le droit de le prendre et de le garder et à qui on va le rendre. Donc voilà, ça bloque un peu les établissements scolaires, mais vous avez tout à fait raison. Il faudrait, de la même façon d'ailleurs qu'en famille, hein, on pourrait aussi prévoir une boîte avant de passer à table où tout le monde mettrait son téléphone. Ça permettrait aussi de respecter la règle de pas de téléphone pendant les repas ensemble.
Alors les parents, justement, hein, beaucoup d'entre eux ont grandi dans un monde sans réseaux sociaux, du moins avec un Internet beaucoup moins développé. Ils se retrouvent parfois un peu démunis pour former leurs enfants, si je puis dire, leur expliquer, parce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas le support, hein.
Ah ben c'est vrai que Internet, ça a bouleversé nos vies, mais en même temps, c'est arrivé à un moment de la vie où on était soit enfant, soit ado, soit parent, soit plus âgé, mais on a tous découvert ça en même temps. Donc il y a eu un moment un peu de paralysie globale où finalement, il fallait le temps que les adultes comprennent ce que c'était, l'analysent, en profitent, le découvrent, avant de pouvoir ensuite adresser des messages éducatifs à leurs enfants. Mais ils n'ont pas pu pendant un certain nombre d'années. Donc les enfants ont découvert en même temps que leurs parents, mais seuls aussi, sans message, sans rien. Et c'est vrai que les parents voilà, n'ont pas du tout pu jouer leur rôle. Ils le savent, hein, ça les fait beaucoup souffrir. Ils ne sont pas du tout passifs par rapport à ça. Maintenant, on commence à avoir des jeunes adultes qui ont quand même eu Internet pendant leur adolescence, qui vont devenir parents, jeunes parents, et ils vont pouvoir le faire. Mais c'est vrai que là, dans l'urgence, on a une vraie difficulté parce qu'il faut qu'en même temps, finalement, on s'adresse aux enfants et puis en même temps à leurs parents pour qu'à un moment, ils puissent se parler ensemble du numérique sans avoir de tiers, comme c'est encore le cas aujourd'hui.
Justine Atlan, directrice générale d'e-enfance, le 30-18, est notre invitée ce soir sur Europe 1. On marque une courte pause et on va prendre vos réactions au 39-21. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous sommes avec Justine Atlan, directrice générale d'e-enfance, le 30-18. Nous parlons avec elle du rapport annuel sur les enfants de la Défenseure des droits. Les enfants ont droit au respect de leur vie privée, mais difficile de trouver un équilibre entre ce droit à la vie privée et à la protection de l'enfance à l'heure du tout numérique. Nous évoquions le rôle des parents avant la pause. Le rapport de la Défenseure des droits suggère des formations aux outils numériques à destination des parents. C'est vrai que le contrôle parental existe depuis bon nombre d'années maintenant, Justine Atlan, mais c'est pas un outil très répandu, hein.
Non, c'est vrai que le contrôle parental existe depuis très très longtemps et qu'il a du mal à décoller, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il a du mal à être pris en main par les parents et répandu. Alors aujourd'hui, il y en a un peu plus qu'avant quand même. Justement, c'est sans doute les jeunes parents qui finissent quand même par le mettre. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui nécessite une prise en main et d'être quand même assez à l'aise avec le numérique parce qu'il faut le télécharger, le paramétrer. Enfin voilà, donc c'est un peu laborieux. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment prendre les parents par la main. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi justement.
Prendre les parents par la main, mais les fournisseurs d'accès Internet aussi, non? Il faut peut-être les alerter là-dessus.
Alors, les fournisseurs d'accès Internet, à leur décharge, ils proposent quand même gratuitement depuis 15 ans maintenant un contrôle parental. Ils ont signé une charte en 2005 et ils le font. Les opérateurs téléphoniques sont censés le faire aussi. Les réseaux sociaux, quand même, ça met en place des offres de contrôle parental. Voilà, mais tout ça, effectivement, c'est un peu anarchique. Ça n'a pas forcément toujours le même nom. C'est pas placé au même endroit sur un site ou une application. Donc, c'est dur à trouver. Donc, c'est vrai qu'il faut harmoniser un peu les choses. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une loi qui a été promulguée. On attend le décret d'application qui, effectivement, oblige tous les terminaux finalement de téléphone, de tablette, d'ordinateur à proposer dès l'installation du téléphone ou de la tablette ou que sais-je, qu'on propose tout de suite un contrôle parental et qu'enfin les parents ne puissent pas dire qu'ils ne le connaissaient pas. Maintenant, ça va être compliqué effectivement de les obliger tous à le mettre, mais c'est vrai que ça a des vraies vertus en tout cas pour les enfants petits.
Nous sommes avec Justine Atlan, directrice générale d'e-enfance, le 30-18. Vous parliez des jeunes parents qui sont rompus aux nouvelles technologies, à l'Internet et aux smartphones. Il y a aussi des comportements insouciants de certains parents. Ce qui s'appelle, je l'ai appris en lisant le rapport de la Défenseure des droits, le « sharenting », ou comment beaucoup de parents publient sans consentement des photos de leurs enfants. Alors certes, ils en sont fiers de leurs enfants, mais c'est grave de faire ça en fait, hein, de mettre sur sa photo de profil son enfant tout jeune.
Alors c'est vrai que c'est un peu inconscient de diffuser comme ça les photos de son enfant sur les réseaux aussi jeunes. D'abord, il faut pas oublier que son enfant est une personne, n'est pas un objet, donc on n'en dispose pas comme on veut, y compris de son image. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que cet enfant, un jour, il va être un adolescent et il va lui-même gérer son image et son droit à l'image sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un enjeu très fort aujourd'hui d'apprendre à un enfant ce que c'est que le droit à l'image, de respecter son droit à l'image pour qu'il apprenne qu'il a ce droit et qu'il peut effectivement le revendiquer, et puis de lui apprendre à respecter respecter celui des autres. Donc c'est vrai qu'il faut que les parents prennent l'habitude de demander l'autorisation à leur enfant de les prendre en photo, ensuite de leur montrer la photo, de leur demander si elle leur plaît et de la diffuser éventuellement ou pas, mais c'est aux parents d'avoir la responsabilité de le faire le moins possible. Évidemment, de ne pas identifier son enfant, c'est de ne pas le taguer, de ne pas nommer son nom et son prénom, parce que ça, en revanche, l'enfant va en hériter, malheureusement, quand il va devenir ado sur les réseaux sociaux, et il va avoir un héritage comme ça de vie numérique que ses parents ont reproduit sur lui et qui parfois peuvent lui causer même du cyberharcèlement si c'est des photos de lui plus jeune, voilà, qu'il n'assume pas forcément et à cause desquelles on va se moquer de lui. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui font qu'il ne faut vraiment pas que les parents fassent ça de façon anonyme.
Voilà, le sharenting, c'est une pratique devenue très banale hein, de nos jours, hein, si on peut, évidemment, on évite. La parole aux auditeurs maintenant. Daya nous appelle au 39-21. Bonsoir Daya.
Bonsoir monsieur, bonsoir aux auditeurs, bonsoir tout le monde, bonsoir à la dame aussi.
Alors nous vous écoutons, vous pouvez poser vos questions, faire part de vos réactions à Justine Atlan, directrice générale d'e-enfance 3018. C'est à vous Daya.
Bonsoir madame, en fait moi justement j'étais scandalisée quand on voit, parce qu'on est quand même des acteurs dans la société, on va dire qu'on est plus ou moins engagés, et on voit la difficulté au niveau culturel, au niveau culturel, entre les droits, devoirs et des libertés, les parents aussi qui sont ignorants de pièges, des pièges qui se trouvent sur l'Internet. Elle a très bien parlé. Il y a beaucoup, là, vous avez évoqué le sharenting, le sad phishing, il y a l'arabe phishing, tout plein de techniques de mensonges et de manipulations qui font que il y a certaines influences qui vont susciter de l'engagement, au travers des gens. Moi, je voulais savoir, pour poser une question concrète, parce que le numérique, c'est vaste, en fait. Est-ce qu'on pourrait, à son niveau de connaissance et de formation et de travail qu'elle est en train d'effectuer, est-ce qu'on pourrait avoir l'éducation numérique à l'école dès les premières classes? Je pense le seul moyen de parer les dangers et apprendre à être aussi eux-mêmes des futurs parents. Parce que les parents de maintenant, elle a très bien dit, il y a une déferlante qui est arrivée sur les gens, ils ne sont pas forcément capables d'apporter des réponses. Merci.
Alors, Justine Atlan, est-ce qu'il est possible, selon vous, de créer une nouvelle matière en fait à l'école, initiation au respect à la vie privée et puis voilà, à la pratique du numérique de nos jours?
Alors, il y a déjà des choses qui existent hein, quand même. Il y a l'éducation aux médias, à l'information qui inclut un certain nombre de justement d'usages qui sont dans le numérique, bien évidemment. Il y a un certain nombre de brevets de validation à la fin du primaire et du collège qui permettent de valider un certain nombre de compétences que peuvent avoir les enfants dans le champ du numérique. Mais c'est vrai que ça reste effectivement loin d'être suffisant hier aux usages quotidiens et permanents qu'on a tous du numérique. Donc c'est vrai qu'il y a des réflexions hein, qui sont faites au niveau de l'éducation nationale de voir comment effectivement intégrer. Alors la question elle est, est-ce qu'on en fait une matière propre? Ou est-ce qu'on considère que le numérique il traverse toutes les matières et que finalement il faudrait que à l'occasion de toutes les matières, on parle de numérique et des usages numériques. Voilà, ouais. Ça, c'est des arbitrages aussi à faire. Maintenant, c'est vrai que pour pallier à tout ça, des associations comme la nôtre, mais plein d'autres aussi en France, on intervient tous les jours dans les écoles, les collèges, les lycées pour effectivement transmettre aux enfants, aux adolescents et à leurs parents aussi, quand ils sont disponibles, un minimum effectivement de bonnes pratiques, de réflexes. C'est vrai que l'usage numérique pose aussi la question des droits. C'est assez important. C'est vrai qu'on n'en transmettait pas forcément aux enfants très tôt les notions juridiques. On est obligé de le faire effectivement avec le numérique parce qu'ils ont des moyens dans les mains d'utiliser un certain nombre de droits qu'ils connaissent mal, parce qu'on ne leur a pas appris. Et donc, on se rend compte à quel point c'est important. Donc, c'est vrai que ça oblige certainement à revoir pas mal d'enseignements. Et c'est une occasion supplémentaire pour effectivement l'éducation nationale, pour revoir un peu l'enseignement en France des élèves.
Voilà, Daya, Justine Atlan vous a répondu. Alors,
merci.
Merci à vous, Daya. On prend maintenant un témoignage qui nous vient d'une maman d'un élève de 6e. Karine nous appelle des Yvelines. Bonsoir, Karine.
Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie de prendre mon appel. Je voulais effectivement apporter un témoignage concernant l'école dans laquelle mon fils est arrivé cette année en 6e et qui a une bonne idée, je trouve, en tout cas c'est expérimental. C'est de mettre à disposition de chacun des élèves de 6e une petite pochette qui est anti-ondes. L'enfant met son téléphone à l'intérieur le matin. Quand il rentre dans l'enceinte de l'établissement, la pochette se verrouille par un petit système d'aimant qui rend impossible l'utilisation du téléphone pendant toute la journée, mais l'enfant conserve son téléphone. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté sur le fait de savoir qui peut prendre la propriété du téléphone pendant la journée. En tout cas, c'est l'enfant qui le conserve et qui ressort. Il faut qu'il pense à le faire déverrouiller en partant, sinon il ne pourra pas utiliser son téléphone après l'école. Mais en tout cas, ils essaient de régler ce sujet-là d'utilisation inappropriée du téléphone pendant la journée. Et pour l'instant, ça marche très bien. Donc voilà, je voulais donner un témoignage parce que c'est une bonne idée.
Mais c'est très intéressant, du coup, ça permet à l'enfant de s'auto-responsabiliser, si j'ai bien compris.
Exactement, il comprend bien que ce n'est pas le lieu à l'école que d'utiliser son téléphone. Il n'y a pas de tentation dans les toilettes ou en cours de récré de prendre des photos inappropriées.
Les ondes ne traversent pas la pochette dans laquelle le téléphone est mis. Voilà. Il ne peut pas recevoir d'appel, pas recevoir de texto, rien.
Voilà, ils ont fait des tests, ça ne passe pas. L'enfant ne peut pas utiliser à travers, c'est impossible. C'est assez opaque et ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc, à suivre.
Vous connaissiez cette technique, cette expérimentation, Justine Atlan?
Alors, je ne connaissais pas l'expérimentation dans cette école, mais je sais qu'effectivement, il y a des pochettes qui commencent à être produites et qui sont commercialisées et qui offrent effectivement la même possibilité, mais aux parents en réalité, c'est-à-dire que pour pas lutter contre leurs enfants sur quand est-ce qu'on arrête le téléphone, on le met dans les pochettes et ça permet effectivement pendant un certain temps de ne pas être tenté de l'utiliser. Mais on voit bien, y compris dans le cadre scolaire, que de toute façon, tout ça ne peut se faire qu'avec l'accord des parents, évidemment. Il fait que les parents adhèrent à cette solution, parce qu'un parent qui, pour une raison ou une autre, par exemple, aurait peur que son enfant ne puisse pas le joindre en cas de problème, y compris dans le collège. Enfin, voilà, il faut voir aussi que parfois l'éducation nationale a affaire avec les parents eux-mêmes qui ne sont pas toujours les meilleurs amis là-dessus. Donc voilà, il faut qu'il y ait une concertation finalement de l'école, des parents, qui soient d'accord, qu'il y ait une adhésion totale et qu'effectivement l'enfant se sente encadré de toutes parts et soutenu dans cette démarche-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas à lui tout seul en tout cas de s'auto-limiter dans ses usages. C'est très difficile à cet âge-là, surtout pour une utilisation comme ça qui est pour lui que du plaisir.
Karine, restez avec nous parce qu'on a bien compris que votre petit bonhomme, en sixième, on a encore un petit bonhomme, a une utilisation limitée à l'école. Comment ça se passe à la maison, Racontez-nous.
Écoutez, à la maison, évidemment, quand il a fait ses devoirs, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être tenté d'aller jouer sur son téléphone parce qu'ils sont attirés, en fait. Donc, le moins il utilise, le mieux c'est. Mais Madame Atlan a évoqué tout à l'heure le contrôle parental. C'est quand même un système qui fonctionne très bien. On peut limiter le temps d'utilisation à une demi-heure par jour. Enfin, sur les petits comme ça, c'est amplement suffisant. Et puis,
vous n'avez pas forcément envie non plus d'aller fouiller dans ses messages, savoir ce qui s'y dit. Voilà, il faut respecter la vie privée. C'est ce que nous dit la défenseure des droits. Ouais. Je comprends que ce soit un peu compliqué de trouver le juste équilibre.
Responsabiliser, leur dire qu'on leur fait confiance. En tout cas, moi, j'essaie de me l'appliquer. Ouais. De leur faire confiance, mais par contre, de les limiter parce qu'ils n'arrivent pas d'eux-mêmes à se limiter, honnêtement. C'est compliqué pour eux. Il faut les aider.
Et on ne leur montre pas forcément le bon exemple parce qu'on n'est pas non plus exemple tout reproche. N'est-ce pas, Justine Atlan?
Ah ça c'est sûr. C'est sûr qu'il ne faut pas les accabler, mais il ne faut accabler personne. Parce qu'il faut savoir que ce sont quand même des outils et des plateformes et des réseaux qui ont été créés pour nous rendre complètement accros et venir nous chercher comme par hasard, on aurait oublié qu'ils existent. Donc donc on fait tout ce qu'on peut pour lutter contre ça, mais c'est vrai que la différence c'est qu'on est des adultes et donc effectivement c'est à nous de limiter nos enfants et nous nous débrouiller nous-mêmes entre nous, effectivement.
Merci beaucoup Karine, en tout cas. Merci de nous avoir appelé ce soir sur Europe 1. Merci également à vous, Justine Atlan, nous avoir éclairé sur toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'e-enfance, le 3018, association reconnue d'utilité publique pour son action pour la protection de l'enfance en ligne. Restez avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, nous allons parler de ce que certains considèrent comme un fléau, un danger pour notre langue, les anglicismes. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Ardent défenseur de la culture française et de sa langue si riche, si belle, l'Observatoire des libertés porte plainte contre une dizaine de municipalités accélérant, selon l'association, la progression du bilinguisme en France, notamment Nice, qui affiche « I love Nice » sur sa corniche, la promenade des Anglais. On peut aussi citer la Ciotat et ses Happy Days, ou encore Lyon et ses Games of Lights pendant la Fête des Lumières. Nous en parlons avec Julie Neveu, normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences à la Sorbonne Université. Elle publie « Le langage de l'amour » chez Grasset. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on peut donner raison à l'initiative de l'Observatoire des libertés. Le pouvoir public, nos mairies, les musées publics doivent employer le français. C'est la loi qui le dit, la fameuse loi Toubon et son article 3.
Mais ce qui se passe, c'est que ce type de discours-là dont l'association se plaint, c'est un discours très particulier qui, en fait, consiste en slogans publicitaires et en affichage, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'exemplarité ici qui est mise en défaut, si on veut que ce type de discours soit exemplaire. Ensuite, il faut savoir que non, je dirais pas qu'elle a raison. J'ai l'impression que c'est un petit peu Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent, parce qu'en fait, non seulement c'est des slogans publicitaires, donc en fait, c'est pas du tout représentatif de la façon dont on se parle, et donc ça ne constitue pas du tout une menace pour la langue française. Pas du tout.
Bah, la c'est-à-dire publicité, qu'en fait, ça peut être considéré aussi comme un reflet de la société, de ce qui nous ressemble.
C'est-à-dire que ça reflète... Oui, ça reflète surtout un certain jeunisme des publicitaires qui essaie de s'adresser à une génération, à une culture et qui essaie de faire cool. Enfin d'ailleurs on dit plus cool parce que vous savez que même les anglicismes ils meurent et qu'en fait les jeunes aujourd'hui ils disent frais, stylé mais ils disent plus cool. Donc en fait il y a toujours une forme d'inquiétude qui est très très remarquable et très propre aux francophones de France. Si vous regardez tous les francophones des autres pays comme l'Afrique, le Canada qui ont l'habitude d'un vrai plurilinguisme, là-bas, ils sont pas inquiets parce qu'ils savent très bien que d'emprunter un mot, c'est pas appauvrir la langue. En fait, il y a vraiment, vraiment une erreur qui commet cet homme qui porte plainte, c'est de penser que c'est une menace, que ce soit bête ou on va dire répétitif, et puis donc la marque d'un certain snobisme, oui, que ce soit excluant pour certaines personnes, oui, mais que ce soit une menace pour la langue française, pas du tout. Pas du tout. En fait, la langue française, elle garde ces mots qui sont disponibles et si elle emprunte véritablement des mots, c'est qu'elle en a besoin. Vous voyez tous les mots comme... par exemple, si je dis « je vais faire du shopping », c'est pas pareil que « je vais faire mes courses ». On voit tout de suite dans quel contexte ça s'inscrit. Donc en fait, les mots anglais qui sont retenus, ce sont des mots qui nous sont utiles. Et là,
j'envoie
les mots dont
mail,
on parle...
Donc, et rarement un courriel quand même, Julie Neveu.
Alors oui, vous avez raison, c'est vrai que parfois il y a des concurrents comme ça pour la même réalité, mais moi je vois pas le problème à dire j'envoie un mail. Je vous avoue que si vous dites j'envoie un mail à un anglais qui est à côté, il comprend pas mail, il reconnaît pas his mail, vous voyez, c'est-à-dire qu'on, rien que la phonétique, le mot, il est déjà plus anglais. En fait le problème de cette lecture, de dire attention, les mots doivent rester français, c'est vraiment une perspective nationaliste qui ruine la réflexion à ce propos, parce que si vous voulez, les mots, ils se baladent pas avec une carte d'identité. Tous nos mots, ils ont voyagé. En fait, le français, c'est un mélange de gaulois, d'allemand, de latin, d'italien, d'arabe.
Et
donc l'anglais, c'est vrai qu'il est plus visible aujourd'hui.
Et d'anglais, Guillaume Alors, le Conquérant, l'anglais, depuis... le 11e siècle.
Alors, mais bien sûr, mais sauf que Guillaume le Conquérant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc grâce ou à cause pour les pauvres Anglais, ils ont plus de la moitié de leur vocabulaire, les anglophones, qui vient du français. Bon, ils se plaignent pas trop parce qu'en fait, ils se sont répartis, les mots se répartissent des contextes. Donc le français là-bas, c'est ce qui est glamour. Nous l'anglais, c'est toujours associé à la réussite économique et une forme de domination économique qu'il faut pas nier, hein. Le propos c'est pas de nier que l'anglais est aujourd'hui une langue dominante économiquement. C'est ça qui doit déranger beaucoup ce monsieur. Mais c'est une réalité qu'on déplore peut-être, mais que la langue en reflète quelques aspects et que des publicitaires ou des municipalités qui essaient de se rendre attractives utilisent la langue du succès, c'est peu étonnant.
Ouais, et puis il est trop tard maintenant. Hein. Aujourd'hui, si on emploie des mots français à la place de mots anglais actuels, on est ridicule, on paraît... pédant, prétentieux, un peu cuistre.
C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et puis il y a un côté ludique qu'on oublie un petit peu, c'est-à-dire que I Love Nice ou Made in France, qu'avait fustigé l'Académie française l'année dernière, en février 2022, là, dans un rapport, c'est des formules qui sont là pas du tout pour être parlées. Une fois de plus, elles sont pas représentatives. Par contre, elles sont là pour frapper l'attention. Donc c'est sûr que même qu'on pourrait dire, si on voulait être un peu un rhéteur un peu difficile, on pourrait dire c'est la preuve, si ça fait encore de l'effet, qu'on n'a pas du tout complètement intégré l'anglais. Vous voyez, si ça marche encore, c'est que c'est encore une langue un petit peu étrangère. Donc on joue avec la langue et c'est vraiment le propre d'un discours un peu marketing, d'essayer de frapper les esprits.
Alors il y a des mots qui ont été quand même remplacés, hein. Supporter, par exemple, ça vient de l'anglais. Normalement, on devrait dire soutenir en bon français, Julie Neveu.
Alors, vous dites supporter, vous, je supporte quelqu'un?
Je supporte telle équipe.
Voilà, je soutiens.
Ah oui, d'accord.
Je soutiens Paris Saint-Germain, en réalité.
D'accord, ben oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'il y a du coup des... Parce que moi, je ne supporte pas le bruit, par exemple. Donc, il y a encore d'autres emplois. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'une langue, ça sert à quoi? Ça sert à se comprendre, à communiquer. Est-ce que si vos interlocuteurs vous comprennent, tout va bien, en fait? Si la langue s'enrichit, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours la possibilité de dire soutenir. Et moi, je dis je soutiens. Et beaucoup de gens autour de moi disent je soutiens. Peut-être que vous, Raphaël, vous dites je supporte l'équipe. Et donc, mais en fait, regardez par exemple abonné et follower, c'est un bon exemple parce que souvent on me dit mais celui-là, c'est la preuve que ben c'est un différent, c'est un contexte différent encore une fois. C'est-à-dire que un follower, vous savez immédiatement que je vous parle des réseaux sociaux, d'un nouveau contexte, d'une nouvelle réalité. Alors qu'un abonné, on va plutôt penser à un fonctionnement classique de magazine qui a ses abonnés. Donc c'est à chaque fois des nouveaux pans de notre réalité et la langue, elle est capable, si c'est une langue vivante, elle est capable de digérer, en fait c'est ça, de digérer une certaine dose d'emprunt qu'elle va d'ailleurs qu'on cessera d'entendre comme des emprunts. Est-ce que vous pensez que week-end c'est un anglicisme?
Oui, c'est un anglicisme, mais c'est tombé dans le langage courant. Je vous l'enlève pas, non mais attendez, et... me faites pas passer pour le réactionnaire de service hein.
Non mais si, ça y est, c'est trop tard.
Ouais, alors moi il y a un anglicisme qui m'agace et je suis pas le seul, c'est le verbe impacter. Voilà, c'est un usage très moderne, très chic, mais pour le coup, on pourrait le remplacer par beaucoup d'autres synonymes: heurter, percuter, frapper, se répercuter, toucher. Un impact, ça a un sens bien précis en français, c'est un trou de balle, pardon, excusez-moi.
Oh bah excusez-moi, oui, oh là là, je pensais pas qu'on en viendrait là.
Mais non, mais c'est vrai.
Alors,
un impact,
non,
ça, voilà.
En fait,
un impact, c'est
pour vous faire une réponse.
Oui.
Non, mais regardez, un impact, c'est une marque laissée sur un support solide. C'est d'abord ça, la définition physico-chimique, vous voyez. Or, impacter, si vous me permettez mon hypothèse sur impacter, moi, je trouve qu'impacter, je comprends qu'impacter a beaucoup de succès en ce moment, parce qu'on est dans une époque qui est devenue sensible aux enjeux écologiques, et on entend partout parler d'impact écologique, et je crois que ce mot, du coup, est dans l'air du temps. Et impacter, avec cette construction syntaxique, j'impacte quelque chose qui est donc du transitif direct. Avant, en français, on avait quand même impacté sur quelque chose. Mais en fait, on se passe de la préposition maintenant parce qu'on veut montrer l'immédiateté. Donc, si vous voulez, moi, je pourrais argumenter aussi que la nouvelle construction syntaxique, je suis impactée par quelque chose m'impacte directement, elle montre mieux, elle est plus mimétique de l'immédiateté de l'impact. Vous voyez,
notre conversation fait réagir nos auditeurs. Julie Neveu, agrégée d'anglais, normalienne, maîtresse de conférences à la Sorbonne Université, notre invitée ce soir. Anthony est avec nous, il est préparateur en pharmacie et lui, il se surprend à être contaminé dans son langage de tous les jours par des anglicismes. Il s'en rend même plus compte. Bonsoir Anthony.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Alors dites-nous. Anthony, dites-nous.
Oui. Bon, en effet, moi, je trouve que la langue française est suffisamment riche de mots pour toutes les situations et qu'on n'a pas besoin d'anglicisme mais pour s'exprimer clairement et se faire comprendre auprès de notre interlocuteur. Mais je remarque que j'utilise malgré moi des anglicismes sans même me rendre compte.
C'est lequel votre préféré?
Alors, plutôt celui qui m'agace le plus, c'est le mot coach.
Entraîneur, je supporte pas ce mot.
On peut dire mon entraîneur, c'était moi quand j'étais gamin, au foot, on appelait ça un entraîneur, on appelait pas ça un coach, et ça allait à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a un coach bien-être, un coach sportif, un coach professionnel, tout le monde a un coach aujourd'hui, et je supporte pas ce mot.
Oui, Julie Neveu, on pourrait dire un motivateur.
Ah, c'est très intéressant. Non, mais ce que je voudrais dire à Anthony, d'abord, il faut pas qu'il s'en veuille. C'est normal de se mettre à parler la langue que les gens parlent autour de nous. On est tous vraiment des mimétiques, en fait. On est des animaux un peu sociaux. Et donc, le langage, notamment, on imprime la façon dont les autres parlent. Donc, c'est difficile de lutter contre ça. Après, le coach, bah, vous voyez, c'est pas le même sens. C'est pas exactement la même nuance qu'entraîneur. Le coach, ça va être pour une seule personne, par exemple. Donc, ça, c'est une pratique, bien sûr, qui vient encore des États-Unis. Donc, c'est vrai que le coach de vie, c'est un concept totalement américain, à l'américaine, et donc une fois de plus, c'est le succès qui est promis avec le mot coach. Alors qu'entraîneur, vous allez voir platement une équipe qui est en train de, vous voyez, de s'entraîner sur un stade de foot, et ça fait pas rêver tout le monde, surtout pas en dehors du domaine sportif. Donc c'est très dur de lutter contre les mythologies que les mots colportent selon leur origine. Ça, c'est impossible, en fait. Donc vous devriez ne pas vous en vouloir, Anthony, et embrasser les mots qui viennent à vous.
Alors, Anthony, oui. C'est bon pour vous? Vous voulez ajouter quelque chose peut-être?
Non, ça va, c'est très bien. J'ai pu m'exprimer, c'était sympa.
C'était un plaisir de vous entendre, merci beaucoup.
Merci
de m'avoir Nino est avec nous également. Bonsoir Nino.
Bonsoir.
Alors vous, ça vous agace les anglicismes à répétition, à outrance?
Pas du tout, puisque j'en utilise tous les jours et je pense que, au contraire, ça n'enlaidit pas la langue française. Ça ajoute quelque chose d'un peu plus instantané, d'un peu plus vivant à cette langue, un peu plus communicatif malgré tout. Et par exemple, quand on utilise certains mots dans certains contextes, le français n'a pas ce contexte-là, alors que l'anglais est très fort pour faire des néologismes.
Oui. C'est vrai que c'est une langue un peu facile, Julie Neveu, l'anglais.
Je ne sais pas si elle est plus facile que la nôtre, mais j'adore.
C'est une langue riche aussi.
Qui a compris. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont toutes riches. Mais quand Anthony disait que la langue est suffisamment riche, ça c'est une fausse conception de la langue. C'est-à-dire que la langue riche est celle, par définition, qui a la capacité d'intégrer, de digérer des nouveaux mots. Et comme le dit Nino, pour des contextes expressifs, c'est souvent dans l'expressivité, quand on a envie de dire de l'enthousiasme ou de montrer un goût pour quelque chose, qu'on va utiliser l'anglais. Si l'anglais est réservé à notre goût, par exemple, vous savez, quand tous les rock'n'roll et les blues et tous ces mots-là sont arrivés, ça dérangeait personne parce que c'était dans le domaine de la culture. Et aujourd'hui, on est un peu fâché parce que c'est le domaine des start-up, etc., qui montre une forme de domination économique. Mais ça reste, les emprunts restent toujours la preuve d'une forme d'ouverture d'esprit, en fait.
Merci beaucoup, Nino, et merci à vous, Julie Neveu, normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences à la Sorbonne Université, dramaturge également. Vous signez Le langage de l'amour, c'est publié chez Grasset. Merci beaucoup de nous avoir déculpabilisé en quelque sorte. Je vous dis bye bye.
Voilà, c'était l'idée.
À tout de suite.
Merci à vous.
À tout de suite sur Europe 1, un nouveau point sur l'information.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.